Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Kapi pour votre journal. Sans plus attendre, voici le grand titre qui font l'actualité aujourd'hui. Doha, un accord de principe pour la paix en RDC. Sous médiation Qatari, Kinshasa et le M23 AFC s'engagent pour un cessez-le-feu permanent, la libération des détenus et le retour des réfugiés. Selon la MONUSCO, cette avancée constitue une étape clé vers une paix durable et un renforcement de la sécurité dans la région. Vol des câbles en cuivre à Likassi. En une semaine, plus de 2500 mètres de câbles en cuivre de la SNEL ont été dérobés. Résultat, des quartiers entiers privés d'électricité avec de lourdes répercussions sur la vie quotidienne et l'activité économique. Regard sur l'actualité en clôture de cette édition. Ne manquez pas notre entretien exclusif avec Georgette Mouena Panzo, militante engagée pour le droit à l'éducation des filles enceintes. Elle partage avec Radio Kapi son parcours et son combat pour une école inclusive où aucune élève ne devrait être exclue à cause d'une grossesse. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. C'est une avancée majeure sur le chemin de la paix dans l'est de la RDC. Après 3 mois de négociations intenses menées sous la médiation du Qatar, le gouvernement congolais et le représentant du M23 AFC ont franchi une étape décisive. C'est samedi à Doha, ils ont signé une déclaration de principe parmi les engagements clés, un cessez-le-feu permanent, l'arrêt total des hostilités, un mécanisme de vérification avec la MONUSCO, la libération des détenus d'intérêt sous l'égide du CICR et le retour volontaire et digne de réfugiés en coordination avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre qatari des Affaires étrangères, un signal fort de l'implication diplomatique du Qatar dans la recherche de la paix dans la région de Grand Lac. Le point avec Alain Hirong.
Paraffé à Doha ce samedi, le document engage le gouvernement congolais et le M23 AFC RDF à avancer ensemble vers une solution négociée à la crise qui secoue l'est de la RDC. La déclaration de principe prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat ainsi que l'ouverture des négociations formelles en vue de la signature d'un accord de paix global. Autre point fort de ces textes, une feuille de route est également prévue pour le rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans les zones actuellement contrôlées par la rébellion, une fois l'accord de paix final conclu. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'une étape décisive, même si les défis restent nombreux. Réagissant à cette signature, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a rappelé que la déclaration repose sur le strict respect de la constitution de la RDC, des principes de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773 et de l'accord de Washington. Il a précisé que le gouvernement reste ferme sur ses lignes rouges, à savoir le retrait non négociable du M23 des zones occupées, mais aussi le redéploiement des FARDC, de la police nationale, des services de justice et de l'administration publique dans ces zones. Pour le porte-parole du gouvernement, ce texte contient des engagements clairs en faveur de la paix, de la protection des civils et de la souveraineté nationale. Reste désormais à traduire ses engagements en actes dans un contexte toujours tendu.
La MONUSCO salue la signature de la déclaration de principe entre la RDC et l'AFC M23 à Doha. Cette avancée marque une étape significative vers une paix durable, le renforcement de la sécurité et le retour volontaire des déplacés et réfugiés. La mission appelle à une mise en œuvre rapide, sincère et coordonnée des engagements pris par les parties. Au Katanga, alerte sur le vol des câbles en cuivre. Plus de 2500 mètres de câbles de la SNEL ont été dérobés en l'espace d'une semaine dans la ville de Likassi. Le dernier incident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Résultat, une partie de la ville est plongée dans le noir avec des conséquences socio-économiques importantes pour les habitants et les entreprises. Les équipes de la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité. L'entreprise rassure, les travaux de réparation sont en cours. Le point avec Paulin Munanga.
Trois cas de vol de câbles de la SNEL enregistrés en une semaine, rapporte une source à l'ICASI. La SNEL annonce que plus de 1700 mètres de câbles en cuivre sur la ligne haute tension 120 KVRC chez la Tembo, située le long de la nationale numéro 1, volée par des inconnus dans la nuit de vendredi à ce samedi. En outre, sur la ligne moyenne tension l'ICASI 3 au niveau de la colline située en face de l'usine de Chitourou, c'est 35 mètres de câbles en cuivre de la SNEL qui sont emportés. Le vol est perpétré dans la nuit de jeudi à vendredi, indiquent des sources locales. Et dans la nuit de mardi à mercredi dernier, 800 mètres de câbles sur la ligne haute tension ont été emportés, plongeant toute la ville de l'ICASI dans les noirs. Mais le jeudi, la SNEL a rétabli le courant avant que les inciviques ne récidivent. Les conséquences de ces vols de câbles sont notamment l'arrêt des activités dans des entreprises minières par manque du courant, les hôpitaux sont privés de l'électricité, il y a aussi le manque d'eau de la régie des eaux faute du courant électrique, indique des sources à l'ICASI. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Nord-Kivu, alerte humanitaire dans le territoire de Walikale. La situation se dégrade de jour en jour dans ce territoire. L'organisation Médecins Sans Frontières tire la sonnette d'alarme. Déplacement massif, hausse vertigineuse de prix alimentaires, insécurité croissante et surtout une flambée inquiétante de la malnutrition. En 6 mois, les admissions à l'hôpital général de référence de Walikale ont grimpé de 6,7 et dans l'unité thérapeutique intensive, c'est une hausse de plus de 41%. Rien qu'en mai, 34 enfants y ont perdu la vie. Nathalie Thoron, chef du programme de MSF au Nord Kivu, décrit une situation critique. Elle est au micro de Denise Lou.
À présent, la situation humanitaire de Walikale, ça nous inquiète beaucoup, surtout les volets nutritionnels. On a constaté une grande augmentation depuis quelques mois, surtout les services intensifs nutritionnels à niveau de l'hôpital général de référence de Walikale qu'on soutient. On a vu qu'il y a beaucoup d'enfants que ça nous arrive dans des situations aussi complexes et graves, parce qu'il n'y a pas à présent et depuis quelques mois tous les programmes nutritionnels ambulatoires à niveau de centre de santé de Walikale, ils ont été arrêtés. Alors à présent, même si la maman avec les enfants malades, ils sont en train d'arriver dans les centres de santé, ils se trouvent dans une situation de pénurie des enfants, mais aussi des aliments nutritionnels. C'est clair que la situation s'était aggravée depuis mars. On a besoin d'aide. On ne peut pas toujours être toute seule. On comprend qu'il y a beaucoup de soucis. Il défie logistique. On appelle à toutes les autres organisations de viser Walikale pour aider cette population en détresse.
À la fin 2024, la plupart des ONG internationales ont quitté Walikale faute de financement. Aujourd'hui, MSF est la seule organisation encore présente sur le terrain, ce qui met une pression énorme sur ses équipes. MSF appelle à un soutien urgent pour éviter une catastrophe humanitaire. Tchopo, un appui médical de taille pour les structures de santé. L'agence belge de coopération internationale Enabel vient de remettre un important lot de médicaments et d'équipements médicaux aux établissements de santé de la province. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet Santé et Protection Sociale en Santé porté par Enabel. La cérémonie de remise s'est tenue hier dans l'enceinte de l'hôpital général de Makiso Kisangani en présence des autorités politico-administratives et sanitaires. Ce soutien arrive au point nommé alors que la province de la Tchopo fait face à plusieurs défis sanitaires, notamment une épidémie de choléra. Un reportage signé Jacques Mokong.
Les équipements ainsi que les médicaments sont remis aux établissements des 4 zones de santé, Makiso Kisangani, Kabondo, Lubunga et Isangi. Celles-ci ont reçu notamment du matériel d'imagerie médicale, du laboratoire et du bloc opératoire, et aussi ceux de la gynéco-obstétrique, des urgences et de réanimation. Pour le représentant du chef de division provinciale de la santé, Bayili Songomi, cette dotation tombe à point nommé.
Ils permettront ainsi à nos professionnels de santé de travailler dans de meilleures conditions, de poser des diagnostics plus précis, d'administrer des traitements plus efficaces, contribuant ainsi à sauver des vies et à réduire ainsi la mortalité et la morbidité.
Quant au chef de bureau d'Enabel, Prosper Ntema, cette dotation est une contribution de son organisation aux efforts des autorités visant l'amélioration des soins de santé de la population.
Le but derrière cette mise à disposition des équipements matériels et un train de riposte est de contribuer aux efforts de l'État congolais. J'ose croire qu'en tant que partenaire, que ceci constitue une réponse réelle aux problèmes de santé des populations de la Tchopo.
Par ailleurs, Prosper Ntema annonce la construction prochaine des deux centres de santé urbains dans la zone de santé de la Makiso Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Sécurité en Ituri, reprise des combats près de la ville de Bunia. Depuis ce samedi matin, de violents affrontements opposent les FARDC au groupe armé Zaïre allié à la milice Convention pour la Révolution Populaire CARP. Les combats se déroulent dans les zones des Telega, Muito et centrale des Soleniama à une dizaine de kilomètres seulement de la ville dans le territoire d'Irumu. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, mais plusieurs sources locales font état d'un important mouvement de population vers Bunia. Le trafic est suspendu sur la route nationale 27 et une forte psychose règne dans la ville où des détonations d'armes sont entendues depuis les zones de combat. Le point avec Isaac Remoyope.
C'est depuis 3h du matin que des tirs nourris d'armes sont attendus vers Muito, Telega et Centra Soleniama. Un groupe de miliciens des Zaïre a attaqué une position des FARDC qui ont riposté pour déloger l'ennemi, rapporté des sources locales. Les combats se sont poursuivis jusqu'au matin. Aucun bilan n'est avancé jusque-là, mais on signale que des centaines de civils cherchent refuge vers Bunia. Les marchés et boutiques n'ont pas fonctionné ce samedi dans les zones de combat. Même le trafic est suspendu sur la RN27. De nombreux véhicules sont bloqués vers Igabarrière en attendant les tissage de la zone par les FARDC. L'arrivée des déplacés à provenance des zones de combat alourdit la tension sécuritaire à Bunia, notamment dans les quartiers Muzibala, Muzipela et Ngoi. Les autorités militaires qui étaient en réunion de sécurité ne se sont pas encore exprimées officiellement sur la situation, ce qui alimente les incertitudes sur l'ampleur des combats et les mesures envisagées pour sécuriser les populations civiles. Ces dernières appellent à une réponse urgente des autorités pour faire face aux menaces de ces groupes armés qui s'approchent du chef-lieu de la province. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, au Nord Kivu, des combats violents ont été signalés jeudi et vendredi dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Les affrontements opposent en effet les rebelles du M23 aux groupes locaux d'autodéfense, notamment les Wazalendo, qui tentent de conserver le contrôle des zones stratégiques. Les combats se sont concentrés autour des Muti, bastions des Wazalendo, dans la chefferie de Buito, groupement des Bambo, mais aussi dans le village des Njaviteja, à la limite avec le groupement Kiondo. Des échanges de tirs à l'arme lourde et légère ont provoqué un nouvel exode des populations fuyant les zones de combat pour se mettre à l'abri. Par ailleurs, 6 corps sans vie ont été retrouvés sur l'axe Kalengera Tongo. Selon des sources locales, ces personnes, dont certaines avaient les bras ligotés, auraient été exécutées par le rebelle du M23 alors qu'elles tentaient de s'évader. Une situation qui continue d'alimenter l'insécurité dans la région. RDC, le réseau des ONG de défense de droits des déplacés internes appelle à la création d'un fonds national d'assistance aux déplacés internes, le FONADI. Dans une correspondance adressée à la première ministre, dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce samedi, le coordonnateur du réseau, Symphorien Kwenge, estime que ces fonds seraient une avancée majeure, surtout en cette période où l'aide humanitaire est ralentie par un manque de liquidité. Symphorien Kwenge est au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
L'assistance humanitaire demeure largement insuffisante et souvent conditionnée par la disponibilité aléatoire des fonds internationaux. Cette dépendance externe constitue une entrave majeure à une réponse humanitaire efficace, durable et souveraine. Devant cette réalité préoccupante, RODI RDC propose la création d'un fonds national d'assistance aux déplacés internes. Ce fonds aurait pour objectif de mobiliser et de gérer des ressources financières nationales pour l'assistance humanitaire aux déplacés internes, de garantir une réponse rapide, coordonnée et adaptée aux situations d'urgence humanitaire, de renforcer la souveraineté de l'État congolais dans la gestion des crises internes, de soutenir les efforts des autorités locales, des ONG nationales et des partenaires techniques dans la mise en œuvre des actions de protection, d'assistance et de réintégration des déplacés.
Le réseau des ONG de défense de droits des déplacés internes, le RODI, rappelle que plus de 7 millions de déplacés internes vivent actuellement dans des conditions extrêmement précaires, notamment à cause de la réduction du financement américain au profit de l'USAID. À Beni, dans le secteur de Rouenzori, les activités restent à l'arrêt pour le deuxième jour consécutif. C'est samedi encore, les boutiques et maisons des commerces du centre commercial d'Nzenga sont restées fermées. Une décision prise par la société civile et la Fédération des entreprises du Congo en signe de protestation contre la recrudescence de vols à main armée dont sont victimes les opérateurs économiques de la région. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Selon la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori, cette décision prise avec la Fédération des entreprises du Congo, antenne de Nzenga Mutuanga, fait suite à une recrudescence de vols à main armée touchant boutiques, maisons de commerce et habitations. Lors d'une réunion vendredi, il a été révélé qu'une vingtaine de cas ont été recensés ces trois derniers mois. Les auteurs, souvent inconnus, agissent en toute impunité dans les centres commerciaux de Nzenga et ses environs. Cette situation empêche les opérateurs économiques de travailler en toute sécurité. Meleki Mulala, coordonnateur de la nouvelle société civile, explique.
On se pose des questions pour pourquoi cela prenne beaucoup de temps pour que la sécurité soit rétablie dans nos villages? C'est pourquoi nous recommandons à nos responsables sécuritaires de multiplier les efforts parce que nous ne voulons pas encore enregistrer des cas pareils pendant que nous avons nos forces armées de la République, nous avons la police, nous avons tous les services possibles dans les secteurs Rwenzori. L'État congolais a le devoir, l'obligation de sécuriser les gens et leurs biens. Et c'est le contraire que nous vivons dans les villages Nzenga.
Le chef du secteur de Rwenzori qui reconnaît cette insécurité persistante annonce la tenue dans les prochaines heures d'un dialogue communautaire. Ces assises réuniront les représentants des différentes couches de la population ainsi que les autorités locales dans le but de statuer sur la situation sécuritaire et proposer des pistes de solutions durables. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Syrie, les violences intercommunautaires dans la province à majorité druze des Souida dans le sud de la Syrie ont fait 940 morts en une semaine selon un nouveau bilan fourni par l'Observatoire syrien de droits de l'homme OSDH. D'après l'ONG, 588 druzes, 326 combattants et 270 civils ont été tués dont 182 exécutés sommairement par des membres des forces relevant des ministères de la Défense et de l'intérieur. Parmi les morts figurent également 312 membres des forces gouvernementales et 21 bédouines sunnites, dont 3 civils exécutés sommairement par des combattants druzes, selon l'OSDH. Par ailleurs, 15 membres des forces gouvernementales ont été donc tués dans les frappes israéliennes, d'après l'ONG.
L'invité.
Le débat sur le maintien de filles enceintes à l'école refait surface. C'est un sujet qui divise, mais qui touche profondément à l'avenir de nombreuses jeunes filles. Georgette Mouenamposo connaît bien cette réalité. Elle-même est tombée enceinte alors qu'elle était encore sur le banc de l'école secondaire. Elle a transformé son expérience en combat. Militante engagée, elle a porté son plaidoyer au niveau national et régional, contribuant à faire évoluer les mentalités et les politiques. Grâce à ces efforts, le ministère de l'Éducation a fini par autoriser les maintiens des filles enceintes à l'école. Elle est notre invitée aujourd'hui, Georgette Mouenamposo, s'entretient avec Askinzibia Tayoro sur son parcours, ses combats et les défis que restent à relever pour garantir à toutes les filles le droit de poursuivre leurs études, quelles que soient les circonstances. Suivez l'entretien.
Mademoiselle Mouenamposo, Georgette, bonjour.
Bonjour.
À la conférence de presse de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, vous avez été à l'honneur. C'est grâce à votre plaidoyer qu'une circulaire du ministère de l'Éducation autorise en ce jour le maintien à l'école des filles enceintes. Quel sentiment avez-vous face à la reconnaissance de votre plaidoyer?
Je dirais que je suis contente. Je suis fière parce que mes efforts n'ont pas été inaperçus. Et je suis vraiment contente et fière que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté entende ma voix et fasse une note circulaire à propos du plaidoyer que j'ai mené.
Alors, est-ce que Vous pouvez nous expliquer un peu brièvement le contexte qui vous a poussé à mener ces plaidoyers. C'était à cause de quoi?
Je dirais que c'était à cause de la discrimination et le harcèlement. Je dirais la discrimination parce que déjà à l'école, ils pensaient qu'une fille enceinte n'a pas de valeur. Donc j'ai mené ces plaidoyers pour leur montrer que la femme, même si elle est enceinte, la fille, même si elle est enceinte, elle garde toujours son quotient intellectuel. Et dans le contexte de... Si je mets l'harcèlement, je vais dire que j'ai tenu la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moqueries. C'était vraiment une longue période difficile que j'ai traversée. Et j'ai pu surmonter cela. Et c'est ça qui m'a poussé à mener ces plaidoyers.
Si nous comprenons bien, vous étiez tombée enceinte pendant que vous étiez à l'école. L'auteur de la grossesse était connu. Comment vous avez jugé son attitude? Est-ce qu'il était intimidé? Est-ce qu'il était poursuivi?
Il avait reconnu, il n'avait pas nié, il a reconnu, chose déjà qui est déjà bon. Mais la chose qui m'intriguait le plus, c'est que il était calme.
Il n'était pas inquiété?
Oui, il était calme, il était calme, il vaguait à ses occupations, il allait aussi étudier, mais moi je restais à la maison comme punition. Je peux dire, c'est ce qui me faisait très mal.
Alors, comment vous avez mené ces plaidoyers? Qui vous a aidé dans toutes ces démarches-là?
D'abord, j'ai donné les recommandations au ministère de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté et au ministère du genre, famille et enfants. Et j'ai donné des recommandations aux écoles confessionnelles. Et c'est ce que je fais.
Ce n'est pas vraiment clair. C'est-à-dire, lorsque vous avez conçu l'idée de faire des plaidoyers, est-ce qu'il y avait une organisation de la société civile qui vous a accompagné? Ou bien c'est... Comment vous avez mené vraiment des démarches pour arriver jusqu'à atteindre même le ministère de l'Éducation?
Il y avait des connaissances à la CONEPT. Nous avons contacté la CONEPT. Comme déjà, ils traitaient ce projet. Comme ils avaient déjà ce projet en main. Et ils ont eu le courage aussi d'avancer dans ça. Et nous avons aussi été soutenus par la World Vision, Vision Mondiale. Ils étaient là aussi pour me soutenir à mener ces plaidoyers.
Paraît-il que vous êtes même allé jusqu'au niveau d'Addis Abeba pour des plaidoyers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a été là-bas?
Oui, nous étions là-bas. Nous avons parlé de l'éducation de filles et de femmes en Afrique. Et il y avait aussi des panels. Et moi, je parlais de filles enceintes et mères adolescentes. J'ai démontré que la grossesse n'est pas la fin du monde, la grossesse n'est pas une fatalité. Au contraire même, je peux dire qu'il y a certaines filles, après avoir mis au monde, deviennent un peu matures, je peux dire.
Votre expérience est aujourd'hui un exemple à suivre, puisque vous continuez à étudier, vous êtes en L1 SPA, c'est-à-dire à l'UNIKIN. Quel message lancez-vous aux filles dont leurs études ont été interrompues suite à leur grossesse?
Je dirais que ces filles doivent réintégrer l'école, parce que déjà, comme je venais de dire, la grossesse n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Donc c'est une période et ça va passer.
Aujourd'hui, vous êtes là, l'homme qui était auteur de la grossesse, vous avez quel regard sur lui maintenant?
Pour lui, vraiment, je le vois maintenant normal comme moi, parce que déjà, j'ai déjà gagné. C'est que je ne voulais pas, c'est de rester à la maison et ne pas étudier. Mais comme mes parents ont décidé que j'étudie, et moi-même aussi, j'ai décidé de fournir les efforts d'étudier malgré cette circonstance-là, ça m'inquiète plus du tout.
Mademoiselle Mouena Panzo-Georgette, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était Georgette Mouena Panzo, ancienne élève devenue militante qui a transformé son expérience personnelle en un plaidoyer fort pour le droit à l'éducation des filles enceintes. Grâce à son engagement, des avancées concrètes ont été obtenues, notamment l'autorisation pour ces jeunes filles de poursuivre leur scolarité. Elles sont entretenues avec Askenzi Biatayoro. C'est la fin de ce journal. Mise en onde, Pierre Diassinois. Présentation, Gisèle Cage. Coordination éditoriale, Jean Gandou. Merci de votre fidélité et de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Okapi pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour une nouvelle édition.